réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures?
Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller en ce lundi 16 mai avec Un autre jour est possible. Une semaine spéciale cinéma français à l'occasion du festival de Cannes. Et ce week-end, à Cannes justement, fut remis le prix France Culture Cinéma des étudiants à Toto et ses sœurs d'Alexandre Nano. Très bon choix au demeurant. Si vous n'avez pas vu le film, je vous le recommande particulièrement, d'autant que le DVD du film sort demain. Alors, ce qui était passionnant surtout, c'était de voir comment les étudiants parlaient des films, comment la génération née avec une multitude d'écrans à sa disposition évoque le cinéma. De nouvelles rhétoriques pour perpétuer la bonne vieille tradition de la critique d'art. Et pour poursuivre cette belle aventure avec les jeunes cinémaniaques de France, j'ai demandé à Christophe Nangaoli, jeune réalisateur, diplômé de la FEMIS, d'analyser à son tour le cinéma français qui l'a marqué. Il a choisi de faire le portrait de la France contemporaine à travers la filmographie de 5 cinéastes. Premier épisode, comment la famille française a évolué depuis mai 1968 et à travers les films d'Arnaud Desplechin. Arnaud Desplechin, membre du jury à Cannes, sous la présidence de Georges Miller, nous fait l'honneur d'être présent avec nous ce matin. Un autre jour est possible, c'est parti. Bonjour Arnaud Desplechin.
Bonjour.
Il y a 25 ans, votre premier moyen long métrage, La vie des morts, était primé au festival Premier Plan d'Angers. Aujourd'hui, après 10 longs métrages réalisés entre temps, que représente pour vous un premier film ?
Ah, c'est. Je sais pas, je suis tant que. Moi-même, je suis passé par là, donc ça m'émeut, vous voyez, d'arriver, de voir des propositions nouvelles de cinéma. Et je sais que un des films qui m'a le plus impressionné cette année, c'était le film de Laszlo Nemes, Le Fils de Saul, qui est un premier film et qui m'a empli, qui m'a passionné, ou je sais pas bien ce que j'en pense, ou qui est un film que je n'arrête pas de creuser. Et du coup, de découvrir comme ça des nouvelles propositions de cinéma du monde entier, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Oui.
Vous arrive-t-il de revoir La vie des morts, Arnaud Desplechin ?
Je ne vois jamais mes films.
Jamais.
Celui-ci. Non, j'ai jamais vu mes films. Comme je peux plus les améliorer, c'est-à-dire c'est pas vraiment vrai puisque j'ai restauré La vie des morts. Il y a une version restaurée qui est sortie
en DVD.
En DVD. Mm-hmm. Et non pas encore en DVD, qui est sortie en salle en septembre, mais qui a été montrée dans des rétrospectives. Donc si vous voulez, je l'ai regardé pour faire les corrections avec Éric Gauthier de Lumière, etc. Je le regarde muet. Alors après, j'ai surveillé le son, mais sans l'image. Mais vous voyez, je peux pas être spectateur de mes films.
Mais pourquoi ?
Parce que je peux plus les améliorer. Donc ça sert à rien que je les regarde, ça me ferait que de la peine, vous voyez. Donc tant que je peux améliorer, comme par exemple la version restaurée, je suis super content de le revoir, je me souvenais de tous les plans, de l'ordre des plans, ça, tout me semblait logique, etc. Donc c'est un film que je connais bien, mais je peux pas en être le spectateur.
Portrait de la France par 5 cinéastes contemporains,
une série avec Christophe Nangaoli.
Christophe Nangaoli connaît toute votre filmographie, c'est un jeune cinéaste, il n'est pas encore passé au long métrage, il a déjà réalisé des courts-métrages. Et pour lui, bonjour Christophe Nangaoli.
Bonjour.
Bonjour.
Je ne sais pas si j'ai vu tous les films, il y a toujours des films qu'on ne voit pas.
Et pour La vie des morts, vous m'aviez dit, Christophe Nangaoli, c'est pour ça que ce face-à-face devenait intéressant, vous nous disiez qu'il y avait à peu près tout l'univers d'Arnaud Desplechin qui était déjà installé dans ce premier film. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?
L'hypothèse pour moi serait qu'on est tous orphelins, ça serait l'hypothèse de lecture. Et la lecture, c'est que la famille, c'est un orphelinat, la communauté aussi. C'est donc un endroit où on devra apprendre à faire famille. Mais depuis quoi ? Ce quoi, c'est peut-être la fondation de quelque chose, la communauté ou de la famille. Et à partir de là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des forces qui agissent et qui révèlent l'orphelinat, qu'est la famille ou la communauté. Ça, c'est l'espèce de lecture que j'en ai.
Alors c'est le drame. Tout le monde attend et les parents sont légèrement disputés.
Il s'était chié la gueule, tu veux dire.
Vous savez quelque chose ?
J'ai vu son copain avec qui il habitait. Mais... Sinon, il m'a crié à moi, il allait bien.
Mais les parents, qu'est-ce qu'ils croient ? Il va bien ou quoi ?
Vous savez quoi ?
Je t'ai dit, on sait rien.
Les parents savent pour la drogue ?
Non, bien sûr. Mais ils prenaient pas grand-chose, tout à fait normal.
Ils prenaient de toute façon rien de méchant, ils en vendaient un peu et encore.
Ouais, potin habituel, quoi. Mais la version officielle, c'est quoi ?
En fait, il y a plusieurs versions officielles. Chez nous, on pense que c'est la faute de la fille qui l'a quittée.
Une fille qui l'a tirée 3 fois, c'est la famille. Tire un coup, tout le monde veut le marier.
Encore plus con, le frère de mamie dit qu'il était somnambule, c'est un signe.
En fait, on sort toutes les vieilles histoires, qu'il aurait fallu plus de discipline, qu'il était perdu, le fils aîné d'une veuve, ses études, enfin, tout le monde tape sur sa mère.
C'est immonde.
Sinon, il y a la variante de l'autre côté de sa famille, les parents de sa mère. Patrick est un petit con, c'est un emmerdeur, fait ça pour se faire remarquer. Puis la version Maguilis, il a eu des ennuis mystérieux, il a fait une dépression nerveuse. Enfin, moi, je ne connais pas les problèmes de Patrick.
Il n'a jamais fait de dépression nerveuse, Patrick, il est fou, c'est pas nouveau.
Paul, t'en prie.
C'est vrai, il a toujours été fou. Quand il était petit, il était déjà fou. Pas plus fou que moi, que toi, ou que ma mère.
T'aimes bien ta mère, toi ?
Et il va vivre ?
Si je dois parler de La vie des morts pour aller très vite, je parlerai de la maison de Roubaix. La maison qu'on voit, cette maison qu'on va retrouver dans un conte de Noël, qu'on va retrouver dans L'Aimé, qui est un film particulier, L'Aimé, parce que si je me souviens bien, il est sorti en même temps que votre sœur écrivait un bouquin sur cette maison. Mais du côté de la mère, et votre film, il est du côté du père.
Du côté du père.
Et là, ça rejoint une autre thématique qui m'intéresse beaucoup, c'est... et qu'on retrouve dans La vie des morts et dans pratiquement tous vos films, c'est la fratrie. La fratrie, c'est plutôt les cousins. Et la sororité, c'est les mères. C'est les mères, c'est-à-dire la mère, les tantes. Et par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y a toujours une espèce de confrontation entre la fratrie et la sororité. Et ce combat-là, c'est un peu le combat des fils contre leur mère. Par rapport à ça, donc moi, dans La vie des morts, j'ai noté quelques figures qui revenaient. Donc cette maison de Roubaix... La jeune fille qui est invitée, Emma DeVos, qui arrive dans la famille et qui arrive comme une menace. Et c'est une figure qu'on revoit souvent. C'est à cet endroit précis, je pense, qu'on peut vous attaquer par rapport à votre machisme, s'il y en a un. C'est-à-dire cette figure-là, elle sera un peu plus développée dans un conte de Noël via Chiara Mastroianni. Cette figure qui s'échange. Les frères et les cousins choisissent avec qui elle va vivre. Et cette figure-là, c'est aussi la figure d'Esther. Là, c'est dans le cadre de l'amitié. Elle s'échange entre les deux amis. Mais c'est une figure aussi qu'on peut retrouver dans « Comment je me suis disputé » autour de Marianne Denicourt. Aussi de la haine des mères. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à la sororité. Et c'est des scènes qui reviennent. Donc, dans La vie des morts, on a la scène de la cuisine. Pour le coup, Cette haine des mères, là, pour une fois, elle est évoquée par une fille, donc ça change un peu le paradigme. Mm-hmm. C'est la seule fois dans l'œuvre. Et elle est renversée dans Roi et Reine, où on a une figure qui revient, qui va arriver dans les films qui vont suivre, la figure de la lettre. Ça, c'est une invention que j'aime beaucoup. La figure de la lettre, donc là, la figure, je parlais de la scène plutôt que de la figure, la lettre de Maurice Garrel à sa fille pour lui dire qu'elle est égoïste. Mais pour revenir à mon idée de départ, c'est-à-dire que chez certains cinéastes, le premier film est séminal de toute l'œuvre, je reviendrai sur les forces qui agissent et qui révèlent l'orphelinat, qui est la famille ou la communauté. Alors dans La vie des morts, cette force, c'est le deuil. Pour moi, dans La sentinelle, c'est assez évident pour tout le monde, c'est la Shoah. Dans La vie sexuelle, c'est le couple. Dans Esterken, ça serait l'émancipation sociale. Dans Léo, ça serait l'adoption. L'adoption qu'on retrouve aussi plus clairement figurée dans Roi et Reine, la scène de la non-volonté d'adoption de Mathieu Amalric pour cet enfant. Dans L'aimé, c'est la maison familiale. Dans Un conte de Noël, c'est la maladie de la mère. Dans Jimmy P, plus complexe, c'est la colonisation. Dans Trois souvenirs de jeunesse, c'est le premier amour. Le seul amour qu'on trahit vraiment. Et pour cette idée de fondation, je finirai sur Stanley Cavell, qui est une autre figure qui traverse un peu l'œuvre. Donc c'est une citation d'expérience d'Emerson qui vient d'Une nouvelle Amérique encore inapprochable. C'est la citation où Stanley Cavell commente la mort de Waldo Emerson en introduisant Thoreau, qui va écrire Walden. Et grosso modo, il cite Emerson en disant qu'à la mort de son fils, il est devenu le fils de son fils, et que cette mort de ce fils, dont le père va devenir le fils, en essayant de tirer aussi les fils de la philosophie orientale, et pas vraiment de la philosophie, mais des mystiques orientaux et des mystiques occidentaux, il dit qu'il va constituer la philosophie américaine. Et cette philosophie américaine, c'est Walden.
Arnaud Desplechin, vos réactions avant de laisser Christophe Nangaoli vous poser deux questions ensuite.
Mais je suis d'abord très touché. Il y a des choses dans lesquelles je me reconnais. Vous parlez le livre de Cavell où il parle de la perte d'un enfant pour Emerson, et c'était des fragments de texte dont je m'étais servi au début du conte de Noël. Il y a des choses où je me reconnais, comme par exemple dans ce désir de ne pas se ressembler, ce désir de dissembler ou d'être en désaccord avec soi-même, d'être en combat avec soi-même et de ne pas coïncider avec soi-même. Et des choses où je me découvre dans ce que vous dites, qui était le début de ce que vous disiez, qui me touche beaucoup, et c'est l'idée d'une famille comme une collection d'orphelins. C'est quelque chose que votre phrase m'aide. Elle m'aide à comprendre un peu mieux ce que j'habite, et ça m'aide. Donc je vous en remercie.
Direz-vous pour autant que vous faites un cinéma plutôt intimiste, Arnaud Desplechin ?
Oh, intimiste, je me pose pas vraiment la question en ces termes-là. Non, j'essaie de faire un cinéma spectaculaire, vous pensez? Bien sûr que j'essaie de faire avec des éléments intimes, vous voyez, mais ce qui m'intéresse dedans, c'est le spectacle.
Alors, vous qui avez fait de la photo, vous avez été directeur photo pour Éric Rochant, pour Nico Papatakis avant d'attaquer la réalisation. Ce qu'on va vous proposer là maintenant, c'est d'écouter le son. On a fait un montage des scènes de votre film La vie des morts.
Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on se tue? Bon, c'est sa mère, c'est ça que vous avez envie de dire de toute façon. Elle l'a tué, il détestait sa mère. Tout le monde déteste sa mère, moi aussi.
Arrête!
Vous êtes là, mais je vous cherchais partout.
C'est les cousins, je peux venir?
Ouais.
Ici, c'est la famille des morts. Il y a cinq sœurs. Leur père, mon grand-père, est mort à 35 ans. Elles s'en sont jamais remises. Le frère aussi est mort. Elles avaient un frère. Il est mort à 30 ans, lui, dans un accident. C'est le père de Patrick. Sa mère a fait une dépression. 10 ans de maison de repos. Tu connais Patrick ?
Ça y est. Tiens, au fait, c'est qui celui-là, l'oncle Lucien ?
C'est le curé. Il y a un curé dans la famille.
Pas l'imbécile !
Mais c'est drôle de savoir que dans une famille, il y a un prêtre. Vous trouvez pas ? Je voulais dire que si quelqu'un entre dans les ordres, c'est parce qu'il fait plus tout à fait partie de la famille.
En fait, c'est simple comme une pile d'assiettes. Il suffit de trier les propres des sales, et puis on regarde qui est sous la pile. Et qui le tourne ?
Ça a toujours été le premier service, c'est pas maintenant que ça va changer.
Je déconne, mais je sais que c'est moi le prochain, je le sais bien.
Chut.
Quand quelqu'un de cet âge meurt, c'est un assassinat. Il faut chercher le coupable. Il est vrai que je suis la coupable, la plus proche. Quand je me souviens que je l'ai aimé, je me dis que je l'ai aimé comme un homme. Je le sais. Que c'est monstrueux d'aimer un enfant comme un homme.
T'es bien grande, toi. Qu'est-ce que t'es grande chez toi?
Non, ça va. Qu'est-ce que tu fais de beau?
Je me suis fait du café. Il y a eu un coup de fil ce matin, l'hôpital. Patrick est mort.
Alors vous qui ne revoyez jamais vos films, Arnaud Desplechin, ça vous fait quoi d'entendre ces extraits de La vie des morts ?
Très grande émotion, c'est des voix tellement amies, vous voyez, c'est des voix, j'ai l'impression que je les touche, que le temps n'a pas passé, c'est des voix qui me sont... J'entends la dernière voix, la voix de Bernard Ballet, la voix de Nita Klein, vous voyez, ça m'émeut, Roch Lebovici qui parle de la théorie des piles d'assiettes, et Laurent Scott qui ouvre le film, Marianne Denicourt, c'est des voix amies, j'ai beaucoup de gratitude.
Mais ça renvoie au film ou ça renvoie à des souvenirs de jeunesse, des souvenirs de tournage?
Ah non, j'ai le souvenir de tournage pour moi très fort. J'espère que ça fait film pour ceux qui en sont qui peuvent en être les spectateurs. Pour moi, c'est le tournage qui est là devant, puis le début aussi, parce que je repensais à Angers et donc à ce début de quand je veux le faire où j'ai le projet de ce film je me dis tiens, on pourrait le faire comme ceci, comme cela, et où ça vient du désir de travailler avec des acteurs. Ça vient du désir de travailler avec beaucoup d'acteurs, d'écrire beaucoup de rôles, vous voyez, de trouver une intrigue qui va me permettre, si ça doit être ce premier et dernier film, de me dire voilà, j'aurais travaillé au moins avec 14 acteurs, vous voyez, de quantité, quoi. Donc j'entends toutes ces voix qui font une musique, j'espère que ça fait film pour le spectateur, et pour moi ça m'emplit de souvenirs.
Quantité, on revient à la famille, une drôle de famille. Christophe Langaoli, vos deux questions à Arnaud Desplechin.
J'aurais qu'une question. Ouais. Par rapport à ce que j'ai développé, avez-vous l'impression d'avoir fondé avec vos films une famille, non pas d'acteurs, ce qu'on vous dit souvent, mais une famille de proches, j'entends techniciens, producteurs, etc.
Pas vraiment, en fait. Excusez-moi d'être, c'est un peu décevant, vous voyez, parce que les gens aimeraient bien imaginer. Alors parfois les acteurs sont piqués, vous voyez, quand on dit parce que souvent on dit vous travaillez avec une famille d'acteurs, c'est juste que quand je travaille avec un acteur, je n'aimerais pas, vous voyez, comme je l'aime, je n'aimerais pas le punir sur le film suivant, donc l'exclure du casting suivant. Donc il m'est arrivé de travailler plusieurs fois avec des mêmes acteurs. Alors si je leur disais vous faites partie de ma famille, eux, ils se reculent, vous voyez, ils sont tout à fait offusqués. Et donc pas vraiment avec les techniciens. Ça a changé. Il y en a certains qui, et puis j'aime bien élargir. Vous voyez, le but, parfois, je me disais, c'est plus un gang qu'une famille, parce que ça a vocation à s'élargir. C'est n'importe qui peut, ou une tribu. Vous voyez, n'importe qui peut en faire partie. Pas n'importe qui, il faut certaines conditions. Mais le but de la tribu, c'est de devenir de plus en plus vaste. C'est que ça puisse embrasser plus de monde, quoi. L'idée de famille, c'est une idée un peu plus refermée, comme ça. Donc, l'idée de tribu m'allait. Et puis, au fur et à mesure des années, des fois, je mesure peut-être plus maintenant la solitude de mon travail que je ne l'ai mesurée. Curieusement, c'est dans le travail de théâtre que j'ai retrouvé, peut-être parce que c'était la première fois que je faisais ça, puisque j'ai eu la chance de faire une pièce cette année. Et donc, je me suis retrouvé avec une troupe dont je ne fais pas partie, puisque c'est la troupe de la Comédie Française. Alors du coup, je me disais, ils vont pas m'accepter. C'est leur tribu à eux, quoi. Et puis là, tout d'un coup, j'avais ce plaisir-là très neuf pour moi de faire partie d'une tribu ou d'une troupe, d'être un des membres de la troupe, quoi. Ça, c'était un sentiment très très heureux. Alors que pour mon travail de cinéma, qui est celui qui m'est naturel, qui est celui avec lequel je vis matin et soir, je mesure peut-être plus aujourd'hui, avec le recul du temps, une part de solitude.
Et avec Mathieu Amalric. Vous avez quand même traversé un quart de siècle. Vous le considérez comme votre alter ego?
Ben, il aimerait pas. Il aimerait pas que je le considère comme mon alter ego.
Mais vous-même.
Alors, non.
Ou autrement poser la question, est-ce que vous allez continuer à faire des films avec Mathieu Amalric?
C'est tout à fait possible. Je sais que j'ai été obligé une fois, vous voyez, sur mon dernier film, sur les trois souvenirs, de lui demander avant. Parce que ça n'aurait pas eu de sens de faire le film sans lui, puisqu'il s'agissait d'un préquel de Comment je me suis disputé. Donc du coup, j'ai été obligé de lui en toucher mot en lui disant, mais si j'écrivais à nouveau un rôle pour toi. Mais d'habitude, je lui dis pas que j'écris pour lui ou j'écris, quoi, voilà. Et après, je regarde les acteurs avec qui je m'entends bien, les acteurs pour qui j'ai de l'admiration, les acteurs qui correspondent au rôle. Et souvent, il est arrivé que je revenais à Mathieu. Et donc j'arrive et à chaque fois, vous savez, il me fait passer des examens. C'est-à-dire que je dois lui prouver que le rôle est différent, qu'on n'a jamais joué ça avant, qu'on va pas offrir deux fois aux spectateurs le même spectacle, qu'on va leur proposer un spectacle différent. Donc il y a tout un petit rituel comme ça pour le. Et puis aussi c'est drôle, c'est un truc que j'ai très très fort, peut-être plus bien sûr avec Mathieu Amalric et Emmanuel De Vos, mais c'est de les protéger de moi. Vous voyez, de pas être intrusif. Je me dis, si je suis intrusif, je leur demande tellement pendant le tournage que entre les films, je les protège. J'ai toujours le sentiment que je dois les protéger de moi. Donc je me fais discret, tout ça, j'ose pas. Et je leur envoie des.
Et vous êtes posé la question, pourquoi vous voulez les protéger? Pourquoi vous ressentez ce besoin?
Je serais capable d'y répondre, mais dans une scène de film, dans un dialogue de film, je serais capable. Oui, non, c'est parce que pendant que vous me posiez la question, je pensais à une scène que je suis en train d'écrire où les personnages parlent de ça.
Et puis enfin, pour terminer, est-ce que vous vous sentez appartenir à une génération? Vous avez fait l'IDEC au début des années 80, oui, en 81, oui?
Bien sûr, certainement, oui. Je pense à mes camarades d'école. Vous voyez, je suis provincial. Je ne me serais certainement jamais autorisé à travailler, à désirer travailler, à essayer de travailler dans le cinéma si j'avais pas fait une école, si j'avais pas été accepté à ce concours à l'IDEC qui était l'ancêtre de la FEMIS. Voilà, j'étais un garçon introverti. Je n'aurais pas su faire. Et c'est en découvrant des pères, vous voyez, je pense en particulier à Eric Crochant, il y a Pascal Ferrand, et puis plus tard à Anne Milvoski, mais bien d'autres qui étaient à l'école avec moi, Pierre Trividic, tant d'autres, Philippe Leguet, et tout ça, c'est en voyant des gens qui partageaient mes aspirations que je me suis dit, bah tiens, vous voyez, mais justement, c'était une tribu et ils m'acceptaient dans leur tribu, alors j'étais content. Mais moi-même, tout seul, j'aurais pas eu la force de monter à Paris. Donc du coup, bien sûr, je dois appartenir à une génération, même si je m'en défends, même si, vous voyez, je peux faire le mec altier, etc., en disant je n'appartiens à rien du tout. Bien sûr que, volens nolens, j'appartiens à une génération. Même si j'appartiens à une génération, je ne crois pas que je fabrique un cinéma générationnel. Je me souviens avoir été très étonné sur les réactions après comment je me suis disputé. On me disait, vous avez fait un film générationnel. Je disais, attendez, c'est quatre types qui s'habillent en noir et qui parlent de textes de Lévinas. Ça ne représente, et qui se sont tous fait normal sup. Ça ne représente qu'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas, c'est pas des étendards. Ils sont les étendards de rien du tout.
Pourtant, le film était traversé par toutes les peurs de l'époque, le sida, entre autres.
Oui, peut-être. Mais j'ai l'impression que peut-être j'ai jamais désiré, en tout cas, être le sismographe d'une époque. Ça, c'est pas là-dessus je me disais pas que je serais bon là-dedans. Je me disais qu'il y en avait d'autres qui étaient plus compétents que moi, qui avaient plus cette sensibilité.
Mais peut-être à votre insu.
Oui, sûrement. On verra. À mon insu, voilà.
Pour l'instant, vous continuez à faire des films. Vous serez bientôt en tournage, c'est ça?
Je suis en train d'écrire, donc j'ai le trac terrible, et donc je pense que je n'y arriverai jamais. Donc je pense, donc par superstition, je peux pas vous dire que je vais tourner. Mais enfin, mon producteur, pour l'instant, aime bien ce que je lui envoie.
Merci Arnaud Desplechin d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu ce matin. Je vous laisse maintenant vous préparer à la projection de 8h30 car, je le rappelle, vous êtes membre du jury cette année à Cannes pour la compétition officielle. Un jury d'ailleurs placé sous la présidence d'un grand metteur en scène, Georges Miller, Georges Mad Max Miller. Toute cette semaine donc, c'est un jeune réalisateur fraîchement diplômé de la FEMIS qui va porter son regard critique sur les cinéastes contemporains et qui dresse à travers leurs films le portrait de la France d'aujourd'hui. Après Arnaud Desplechin, donc aujourd'hui autour de la famille, demain on sera en compagnie de Christophe Nanga Oli avec Dominique Cabrera pour parler de l'héritage colonial français dans la société d'aujourd'hui. Mercredi, on parlera des films de Céline Sciamma et de l'émancipation par la sexualité, thème qui traverse ces trois films. Céline Sciamma sera présente avec nous mercredi. Jeudi, vous allez porter, Christophe Nanga Oli, un regard sur le monde du travail d'aujourd'hui, à travers les films de Samuel Collardet. Et on terminera cette série par un metteur en scène qui n'est pas très connu, mais qui est très important, c'est Virgile Vernier. Et on parlera d'identité nationale et de folklore, quand le folklore fait retour dans le contemporain. Je vous rappelle que le prix France Culture Cinéma des étudiants cette année à Cannes a été attribué à Toto et ses sœurs d'Alexandre Nano, film qui va être bientôt mis en vente en DVD et que je vous recommande vivement. Et si vous voulez avoir un autre regard critique sur les films français, une autre manière d'analyser les cinéastes d'aujourd'hui, eh ben rendez-vous à la page Facebook du prix France Culture Cinéma des étudiants. Vous allez voir que les jeunes, s'ils perpétuent cette vieille tradition française de la critique cinématographique, ils viennent avec un nouveau regard et surtout de nouveaux arguments pour défendre un certain cinéma. Merci beaucoup de votre fidélité. Un autre jour est possible, préparé par Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet. C'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 6h à 6h30, et quand vous voulez, en passant par le podcast de l'émission disponible sur franceculture.fr. Cette émission est réalisée par Thomas Duterre. Bonne matinée, à demain.